heureuse de vous retrouver parmi les talas. Ça va? Parce que je suis une archi-tala, enfin une ancienne quoi. Effectivement, j'ai découvert les talas il y a quelques années. Et d'ailleurs, c'était une année où nous avions fait un magnifique pèlerinage en Terre Sainte. Donc je ne saurais que trop vous inviter à faire cette expérience qui reste toujours inoubliable, surtout en pèlerinage talas. Et depuis, donc je suis devenue religieuse au sein du mouvement Point Cœur. Je ne sais pas si certains connaissent. Et c'est un peu de ça que je voulais vous parler. Parce que c'est une expérience qui était très, très importante pour ma vie. Et en fait, Point Cœur, c'est un mouvement, avant tout, pas seulement de consacrer, mais surtout qui propose une expérience humanitaire aux jeunes. Donc pourquoi pas vous? C'est propose aux jeunes de partir un an ou deux en mission humanitaire dans un pays à l'étranger. Et moi, en fait, j'ai rencontré Point Cœur pendant mes études à l'école. Donc c'était... Moi, j'étais donc en sciences de l'Antiquité. Voilà, donc... Non pas matheuse, mais... Mais évidemment, avec des matheux aussi chez les talas. Et je trouvais que ces années à l'école, ça a été des années extrêmement privilégiées. Je me rends compte à quel point j'ai reçu, bon, au niveau intellectuel, mais en fait surtout au niveau humain, notamment chez les talas. Pour moi, ça a été une grande plongée dans la foi, parce qu'avant, j'étais pas si pratiquante que ça, je ne pensais pas du tout à devenir religieuse à l'époque. Et ça a été au niveau amitié aussi, c'est des liens très, très forts qui m'ont beaucoup porté. C'est des vrais modèles de foi que j'ai rencontrés chez les talas. Et en fait, il arrivait un moment dans mes études où j'avais peut-être l'impression d'être un peu comme le jeune homme riche de l'Évangile. J'avais beaucoup reçu. Je me sentais que le Seigneur m'avait beaucoup donné. Mais j'avais besoin qu'il me manquait quelque chose. Et moi-même, j'avais besoin de me donner. Et le Seigneur, à ce moment-là, m'a fait rencontrer Point Cœur. Et je suis partie un an en mission humanitaire. Enfin, moi, j'ai été envoyée à Naples. Ça me paraît parce qu'il y a le plus exotique. Mais les banlieues HLM de Naples, c'est aussi un autre monde. C'est presque plus près de l'Afrique que de la France. Et ensuite, bon, c'est une expérience qui m'a beaucoup marquée. Je suis rentrée, j'ai fini mes études. Mais je me suis rendu compte que ce qui avait de plus important dans ma vie, c'était ce que j'avais vécu à Point Cœur. Donc je suis rentrée comme consacrée, comme religieuse. Et depuis, j'ai été un an à New York, aussi un Point Cœur à New York, un an au Pérou. Et puis depuis 2 ans, je suis dans notre maison en Picardie. C'est un peu moins exotique, mais dans la forêt de Compiègne, c'est très beau aussi. Et c'est la maison de formation, c'est là où on accueille les jeunes qui veulent partir en mission. C'est la maison d'accueil aussi pour les anciens qui reviennent, c'est un peu la maison de famille. C'est un lieu très, très beau, très calme. Vous êtes bienvenue d'ailleurs si vous voulez prendre quelques jours de repos, donc de révision. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette mission Point Cœur? Il y a 3 points. Là, les fameux 3 points qu'on retrouve dans beaucoup de choses, mais aussi dans Point Cœur. Les 3 piliers, c'est la vie de prière, la vie de communauté et la vie de mission. Alors d'abord, la vie de prière, parce que c'est le centre pour pouvoir tenir tout ce qu'on vit à côté. Et les Points Cœur, dans chaque maison Point Cœur, dans chaque maison volontaire, le centre, c'est la chapelle. On a toujours une pièce chapelle avec les Saint-Sacrements. Ça, c'est une grande grâce. Et on prie tous les jours ensemble les laudes. Ça se fait toujours chez les talas, de prier les laudes. Voilà. Alors, je pense que toute mon expérience talas m'avait vraiment préparé à Point Cœur, parce qu'avant, évidemment, je ne connaissais rien des laudes. Et c'est grâce au Tala, je me souviens encore de mes premières laudes en CAF Tala. Je me disais, mais j'arrivais jamais à chanter, à émettre un son. Je pense que c'est l'expérience de tout le monde. Et puis après, voilà, maintenant je chante les laudes tous les matins. Donc dans les Points Cœur, on prie les laudes, les vêpres, on a la messe tous les jours. Et puis on a une heure d'adoration tous les jours. Et on prie le chapelet aussi ensemble. Et donc ça, c'est. Moi, quand j'avais vu ça sur un papier, je m'étais dit que ça me paraissait très intense au niveau prière. Ça me paraissait beaucoup trop pour moi. Et c'est en le vivant, dans le Point Cœur, qu'on se rend compte combien, pour appliquer notre vie de mission, c'est indispensable d'avoir les temps de prière pour se recueillir, pour remettre au Seigneur toutes les souffrances et toutes les grâces qu'on rencontre. Et finalement, pour moi, c'est vraiment... Les talas, ça a été une introduction à cette vie de prière. Puis après, j'ai plongé dans cette mission Point Cœur. Le deuxième pilier, c'est la vie de communauté. Communauté, un peu chez les talas, vous expérimentez un peu ça. Parce qu'évidemment, on ne part pas en mission tout seul. D'ailleurs, pour ça, l'évangile d'aujourd'hui, pouvait très bien. Le Christ nous envoie deux par deux. Et à chaque cœur, on est envoyé dans des communautés de 4-5. En général, 4-5 volontaires. Et on va faire des visites ensemble. Comme le Christ nous envoie dans les quartiers pauvres où on est. Et on part toujours deux par deux. On ne peut pas des visites seules. On n'est pas missionnaire pour soi tout seul. On part à deux. Et bon, cette vie de communauté, c'est à la fois très beau, à la fois aussi un vrai dépouillement, parce qu'on ne choisit pas ses frères et sœurs. Et c'est des lieux de grande grâce, donc c'est des lieux aussi qui font beaucoup grandir. Et puis il y a une autre particularité, c'est que c'est une communauté, mais on n'est pas en France, on est à l'étranger. Et ça, au début, on pourrait se dire, il y a tellement de misère en France, pourquoi aller à l'étranger? Alors, c'est une vraie question, mais c'est si on va à l'étranger, c'est pour un temps, évidemment, c'est pour mieux revenir en France après. Et puis, cette expérience qui m'a beaucoup étonnée, c'est que moi, j'avais plus l'image de partir à l'étranger du côté exotique. Découvrir une nouvelle culture, c'est sympa, c'est attrayant d'aller en Inde. Et en fait, pour ceux qui ont peut-être déjà vécu cette expérience de vivre dans un pays à l'étranger, et en plus, on est dans des quartiers pauvres, c'est avant tout extrêmement dépouillant. Parce que ça veut dire aussi accepter de perdre tous ses repères. De quitter les amis qu'on a, la famille, tous les ces points de référence qui nous rassurent finalement. En France, on sait qui on est, on sait. On a tous nos points de repère. Et en fait, à l'étranger, tout ça, on lâche tout. C'est sûr que quand vous êtes avec le petit enfant dans le binôme, que vous ayez fait l'ENS ou Polytechnique, c'est pas lui qui va vous demander. Et c'est très dépouillant de ce point de vue-là. On est remis en vérité sur qui suis-je. Qu'est-ce qui fait mon être finalement? Et puis, il y a aussi le côté de la langue, parce qu'on n'a pas forcément appris la langue. Enfin, souvent, on ne connaît pas du tout la langue du pays. Et c'est un vrai défi de l'apprendre. Dans chaque point clair, on parle la langue du pays. Et ça, c'est très beau, parce qu'en Thaïlande, vous apprenez le thaï. Au Pérou, vous apprenez l'espagnol. Ce qui est bouleversant, c'est de voir combien les gens des quartiers où on est, qui sont des quartiers pauvres, sont extrêmement... Enfin, pour eux, c'est un premier signe d'amour. Quand ils voient qu'on ne vient pas avec nos langues européennes, ou avec l'anglais, ou nos langues occidentaux, et qu'on se met à leur niveau, nous, mais qu'on entre dans leur culture, et qu'on apprend leur langue. Et ils sont extrêmement reconnaissants qu'on ne fasse pas de parler leur langue, même si on ne la parle pas très bien. Ils sont très accueillants. Et puis, ce qui est très beau aussi, c'est de voir que c'est très beau et c'est très vieux, parce qu'au début, souvent, on n'arrive pas à parler. On se retrouve comme un enfant, on ne va pas pouvoir s'exprimer. Tous les beaux raisonnements qu'on a, on ne peut pas. Et finalement, j'avais l'impression aussi d'être dans l'évangile où on dit qu'il faut redevenir comme un enfant pour entrer dans le royaume des cieux. Et là, très concrètement, on le vit dans le sens où on vient avec l'idée d'aider les pauvres, mais avant d'aider les pauvres, on découvre qu'on est soi-même pauvre. Et un premier signe concret, c'est de ne pas savoir parler la langue, de ne pas pouvoir communiquer facilement, et on est obligé de découvrir d'autres moyens de communiquer, par le sourire, par un geste, par notre écoute. On découvre que c'est possible. Même si on ne fait pas de beaux discours, on découvre un moyen de communiquer encore plus beau. Donc finalement, être à l'étranger, évidemment, il y a aussi tout l'apport de la nouvelle culture, mais c'est une richesse incroyable. Après, quand on revient en France, c'est une ouverture incroyable. Très bien, ça veut dire qu'il est d'accord. C'est un homme très bien dressé. Et donc le dernier point de cette vie, qui est là, c'est la fameuse la vie de mission. La vie de... On peut dire que, à point clair, on aime bien dire qu'on ne vient pas pour construire une école ou pour construire un hôpital, on vient pour construire une amitié. Bon, ça peut paraître très, très théorique comme ça, mais en fait c'est extrêmement concret et ça se passe tous les jours dans les... une petite maison dans des quartiers pauvres, on vit avec les gens. Là, on n'est pas dans notre hôtel, et on vit auprès des gens. Et souvent, on est dans des quartiers où le point cœur existe, les volontaires se succèdent depuis parfois 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et donc, petit à petit, ça a commencé par les enfants pauvres qui venaient jouer au point cœur. Ensuite, on a connu les parents, puis on a connu les grands-mères. Puis au fil des rencontres dans la rue, on tombe sur telle personne handicapée. Et c'est vraiment, c'est incroyable comment on vit la providence au jour le jour. C'est la providence des rencontres qui va nous faire aller chez telle ou telle personne. Et on passe notre après-midi en fait à faire des visites. C'est une mission avant tout de visite avec l'intention d'aller voir ceux qui sont le plus seuls. C'est vraiment aller voir telle maman parce qu'elle est en dépression et parce qu'elle est seule, aller voir telle grand-mère qui n'a jamais de visite, revoir tel adolescent qui tombe dans la drogue. et leur dire, être un peu pour eux le sourire du Christ, et leur dire, tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. Et c'est bouleversant de voir combien de vraies résurrections, pour un cœur, j'ai vraiment assisté à de vraies résurrections de personnes, parce que par exemple, dans telle maison de retraite, il y avait une grand-mère à New York qui s'appelle Betty, que j'allais voir toutes les semaines, et à la fin, c'était vraiment devenu ma grand-mère, enfin, notre grand-mère, et elle m'attendait toutes les semaines, et moi j'attendais d'aller la voir. Et c'est fou comme cette simple présence, mais finalement ça change vraiment la vie, la vie d'une personne. Et on se rend compte, nous finalement, qu'est-ce qui nous fait le plus souffrir. C'est pas forcément de ne pas avoir eu une bonne note, ou de pas vivre dans un super appart. C'est avant tout quand on est seul, quand on est profondément seul. Et ça c'est pour tout le monde pareil. Et nous on essaye d'être cette petite présence où on peut être. Et puis après on va avoir des lieux de grande souffrance, que ce soit des hôpitaux, des prisons, des lieux pour personnes de la rue. Et je me souviens d'une phrase dans ma première visite à Naples, qui m'avait beaucoup marquée. On était allé voir dans un quartier HLM où la mafia règne en maître. On allait voir une maman qui s'appelle Rosa, qui faisait une sorte de dépression parce que son mari était en prison. Des questions de mafia, ses deux fils allaient à moitié à l'école, et puis bon, tombaient un peu dans les jeux vidéo, enfin, étaient des petits garçons terribles. Et elle, son métier c'était de coudre des chaussures. Je ne pensais pas qu'encore en Europe on pouvait coudre des chaussures qui lui étaient achetées par des grandes marques à des prix dérisoires. Et en fait, elle nous a accueillis pour un café, et la chose qu'elle nous a dit en partant, deux intentions, c'était quand est-ce que vous revenez ? Deux questions. Quand est-ce que vous revenez ? Et prier pour moi. Et c'est deux questions qui me sont toujours restées dans le cœur. Parce que quand est-ce que vous revenez, moi c'était vraiment le cri du Christ sur la croix qui disait j'ai soif. J'ai soif de vous, j'ai soif de votre amitié, j'ai besoin de vous. Et effectivement, elle nous répétait que nous étions ses seuls amis, les seules personnes en qui elle pouvait avoir confiance et avec qui elle pouvait être elle-même, se livrer. Et puis cette question, prier pour moi, c'est incroyable comme souvent les amis pauvres qu'on rencontre ont une conscience de Dieu. Pour moi, c'est des vrais maîtres dans la foi. Eux-mêmes, c'est eux mes maîtres. Et souvent, ils ont une grande conscience de Dieu, de sa présence, et ils nous demandent de prier parce qu'ils savent que la prière, c'est ce qui est le plus important. Et donc, on va pour aider les pauvres, mais on rencontre des maîtres et des saints cachés, incroyables. Et donc, voilà, cette expérience que je voulais vous partager. Et oui, une dernière chose, c'est que notre modèle à Pointe-Cœur, la figure qu'on regarde, c'est Marie au pied de la croix. La mère de Pointe-Cœur, c'est Marie, la figure du Stabat, c'est-à-dire c'est la pure présence. Au pied de la croix, elle voit la plus grande souffrance, son fils, Dieu, qui meurt sur la croix, et elle est là, debout. Alors on peut dire, ça sert à rien, mais je pense que finalement, si le Christ a tenu sur la croix, c'est aussi parce que sa mère était là, et elle ne sait pas quoi faire, elle est simplement là, debout, mais après, la résurrection arrive. Nous, à Pointe-Cœur, c'est un peu ce qu'on vit. Parfois, on a l'impression d'être là, on ne sait pas pourquoi. On est auprès de grandes souffrances, et puis après Dieu agit, et on voit vraiment des résurrections. Et on voit aussi toute la joie de la visitation, la joie effectivement de ces rencontres incroyables. Et je pense que ces rencontres, vous devez les vivre aussi, parce que si vous faites des maraudes, c'est aussi un lieu, je pense, un lieu privilégié pour vivre ces rencontres avec les plus pauvres qui nous enseignent. Et je me souviens que j'avais fait quelques maraudes avec la conférence Saint-Vincent-de-Paul, quand j'étais à là. Du coup, je suis très heureuse ce soir de pouvoir participer aussi à ça avec vous. Voilà, merci beaucoup pour votre accueil.
Merci.